Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Plusieurs personnes sont victimes des détentions arbitraires à travers la ville de Kinshasa et même dans nos provinces. Et ces personnes sont détenues dans des amigos pendant plus de 48 heures, sans motif valable. Alors, qu'est dit la loi par rapport à la détention arbitraire et quelles sont les sanctions prévues? Maître Guilhem Alévré, bonjour.
Oui, bonjour Jody, bonjour aux auditeurs.
Qu'est-ce qu'on entend par détention arbitraire?
Eh bien, la détention arbitraire peut être définie tout simplement comme celle qui est effectuée en dehors des conditions et des formes prévues par la loi. Et la base de cette matière qui est notre sujet d'aujourd'hui se trouve dans la Constitution même, la loi des lois en République démocratique du Congo, qui dit à son article 17 que la liberté individuelle est garantie et elle est la règle, la détention, l'exception. Donc c'est la Constitution même qui affirme la liberté individuelle dont doivent jouir tous les citoyens sur le territoire de la République démocratique du Congo et qui pose la détention comme étant une situation d'exception. Donc le Congolais doit être libre d'aller et de venir, ainsi que évidemment l'étranger qui décide de résider au Congo. Alors, cet article 17 de la Constitution précise en disant que nul, c'est-à-dire personne, ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Donc, pour être arrêté, il faut que ce soit en vertu d'une loi et dans les formes que la loi prévoit. Si cette arrestation est effectuée en dehors de ce que la loi prévoit, en dehors des formes que la loi prévoit, elle est arbitraire et en ce moment-là, elle est sanctionnée dans le chef de celui qui l'a effectuée.
Alors, qu'est-ce que la loi prévoit exactement?
Très bien, la loi prévoit que, par exemple... lorsque quelqu'un est soupçonné d'avoir commis une infraction et qu'il est appréhendé par un agent de l'ordre, ou plus précisément par un officier de police judiciaire, il doit être en principe conduit immédiatement devant le magistrat du parquet pour que le magistrat du parquet puisse instruire et voir si réellement cette personne peut être poursuivie pour les faits qui sont mis à sa charge.
Ouais, généralement, on les amène au conteneur de la police.
Exactement.
À la maison communale.
Exactement. C'est la loi qui les prévoit aussi, qui dit que lorsque l'officier de police judiciaire a besoin d'un peu de temps pour réunir les éléments, il peut effectuer une petite enquête à son niveau, une enquête dite préliminaire. En ce moment-là, il peut garder cette personne là-bas à vue, c'est-à-dire au cachot, s'il y a des indices, n'est-ce pas, qui démontrent que c'est cette personne qui peut avoir commis l'infraction qui lui est reprochée. Dans ce cas-là, c'est ce que vous disiez tout à l'heure en introduisant l'émission, eh bien, l'OPJ ou le policier du conteneur ou du sous-siat ne peut garder cette personne que pendant un maximum de 48 heures. Au-delà de ce délai, la loi dit que soit l'OPJ libère immédiatement la personne, soit il conduit cette personne devant l'officier du ministère public, c'est-à-dire l'officier, le magistrat du parquet. Malheureusement, et je dis, vous l'avez souligné, ces choses-là ne sont pas toujours respectées, particulièrement à l'intérieur du pays, dans des contrées où le parquet n'est pas proche ou bien où l'autorité de l'État n'est pas clairement affirmée.
Oui. Généralement, d'après les informations reçues, les OPJ en font une source de revenus. On vous arrête, on vous coffre quelque part pendant, et puis on demande à la famille les soirs d'amener un peu d'argent et on vous libère.
Le cas le plus flagrant est celui-là, je vous dis, où systématiquement, toute personne qui est accusée d'une infraction, même lorsque sa crainte n'est pas, sa fuite n'est pas à craindre, et même lorsqu'elle a une famille, une adresse connue, eh bien, la tendance, c'est d'arrêter systématiquement. Et ça, c'est déjà contraire à ce que dit la Constitution. Lorsque vous savez que la personne, par exemple, a répondu volontairement à l'invitation que vous lui avez
normalement, on ne doit pas l'arrêter.
Bon, elle a répondu volontairement, elle a une adresse connue, elle a femme et enfant, elle a un travail connu.
Oui.
Vous n'avez pas besoin de l'arrêter pour la faire comparaître devant la justice. Donc, vous pouvez l'inviter, l'entendre ce procès verbal, lui dire de rentrer à son domicile et de revenir plus tard si vous avez besoin d'elle. Donc, à ce moment-là, la loi prévoit que vous ne devez pas arrêter en toutes les circonstances. La liberté, je le répète, c'est le principe et la détention. détention l'exception. Si vous les faites abusivement, sans motif, sans qu'il n'y ait des indices, probants de sa culpabilité, en ce moment-là, vous vous rendez coupable d'arrestation arbitraire et vous, agent de l'État, vous pouvez être sanctionné. Parce que, puisque vous avez parlé aussi des sanctions, il y a le code pénal qui prévoit, là, son article 67, que le fait d'arrêter quelqu'un arbitrairement, donc en dehors des conditions et des formes prévues par la loi, peut vous exposer, vous qui l'avez arrêté ou l'avez fait arrêter, parce qu'il y a aussi des gens qui font arrêter d'autres,
et bien peut à vous... cause d'une dette,
par exemple, peut vous exposer à une peine de prison de qui peut aller d'une année à 5 ans. Et lorsque cette personne est torturée, dit l'article 67 du code pénal, eh bien, si la personne est torturée pendant cette arrestation, torture corporelle, eh bien, cette peine passe à 5 à 20 ans de prison. Donc, de 1 an à 5 ans, eh bien, elle passe de 5 ans à 20 ans de prison si l'arrestation arbitraire ou la détention illégale est suivie de torture corporelle.
Bien, un auditeur en ligne depuis Yarou, dans la province orientale, Andrito, bonjour.
Merci beaucoup, j'ai dit Kachama, bonjour. Bonjour aussi dans pour la radio Capi. J'ai vraiment une préoccupation. Le sujet est pertinemment intéressant. Alors, ici chez nous, nous sommes en train de constater ceci. Surtout dans des chefs fouliers de territoire, là où le tribunal de paix n'est pas implanté, et puis il n'y a pas non plus le parquet secondaire. Les OPJ, je vous assure, j'ai dit Kachama, les OPJ sont devenus des magistrats de la Cour suprême de justice.
Mais qu'est-ce qu'ils font?
Ils sont en train d'incarcérer les gens pendant un mois, deux mois, avec des demandes exorbitantes, même si... les motifs pour lesquels le prévenu est arrêté, donc, ne sont pas fondés, je vous assure, j'ai dit Kachama, les OPJ sont devenus des magistrats de la Cour suprême de justice. Alors, je ne sais pas si le gouvernement pouvait au moins, le gouvernement à venir pouvait mettre en pratique l'installation de nouveaux tribunaux coutumiers, plutôt de nouveaux tribunaux dans chaque chef-lieu de territoire, ça pouvait remédier à certaines situations, monsieur le journaliste.
Merci, Andrito, depuis Arou, maître Guilain.
Eh bien, c'est bien ce que nous disions tout à l'heure quand nous avons commencé l'émission aujourd'hui, que ceci se passe souvent dans des contrées où l'autorité de l'État n'est pas clairement affirmée. Oui. Et ici, nous sommes ici dans un problème de sémage, n'est-ce pas, de nos juridictions et parquets. Eh bien, ce qui est soulevé là par notre auditeur Darou est tout à fait pertinent. Et l'État a une grande responsabilité dans ce cas-là, parce que le programme d'implantation des tribunaux de paix et subsidiairement des parquets secondaires est un programme qui est clairement arrêté dans le plan d'action des réformes du secteur de la justice, et il est question justement que l'État, avec l'aide des partenaires au développement, puisse essaimer, n'est-ce pas, les institutions judiciaires de sorte à éviter ce genre de situation. Mais qu'à cela ne tienne, ces OPJ qui agissent ainsi, par rapport à la loi, sont en porte-à-faux. La loi leur donne une compétence limitée. À ce délai de 48 heures, la loi ajoute des délais de distance pendant lesquels ils peuvent acheminer, même si le parquet est loin, eh bien, ils sont censés, selon la loi, acheminer ces gens-là vers le parquet le plus proche.
Selon les informations reçues, il y a un véhicule de la prison qui passe, qui fait la tournée, qui fait le tour des maisons communales pour prendre, récupérer les gens afin de les acheminer.
Oui, ça c'est Kinshasa et peut-être dans les grandes villes, mais ici nous sommes à Arou. Arou, c'est en province orientale et encore
là, il y a d'autres
très loin de Kisangani, il y a d'autres réalités. L'officier des polices judiciaires, s'il se trouve dans l'impossibilité de le faire, doit relâcher la personne malheureusement, parce qu'il ne peut pas détenir comme ça pendant 2 mois une personne au motif que c'est des besoins d'enquête. Et ça c'est complètement illégal et cette situation doit cesser. Et l'État, effectivement, comme a dit l'auditeur, doit prendre ses responsabilités et poursuivre le programme d'implantation des tribunaux de paix et des sémages des parquets secondaires sur toute l'étendue de la République pour éviter ce genre de situation.
C'est parce que Radio Capéuné le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi, de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Quelles sont les dispositions légales en cas de détention arbitraire? Frédéric Tulanda, vous êtes à Kananga, dans la province du Kasaï occidental. Bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Nkachama. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Alors, Frédéric, on vous écoute.
Oui, je dis par rapport à cet thème qui me semble très important. Je suis ici au Kasaï occidental à Kananga. Il se peut que quand la personne veut te porter plainte, la personne est partie vous porter plainte, elle est présumée gagner le procès. C'est pourquoi je comptais simplement poser la question à cette à notre invité.
Oui.
Il se fait que j'ai reçu une fois la convocation. Je ne savais pas la personne qui m'avait porté plainte. Je suis parti d'office me représenter auprès de l'officier qui m'avait convoqué.
Oui.
Quand je suis arrivé, l'OPJ a institué mon dossier. Je me retrouvais dans mes droits. Donc je ne savais pas pourquoi on m'avait porté plainte.
Frédéric, on vous a entendu sur PV.
Oui, on m'a entendu sur PV. Donc j'ai dit, mon jeune, simplement, que je me vois avec la personne qui m'a porté plainte.
Oui.
Donc, l'OPJ a eu à faire, une acrobatie, un exercice, simplement qu'il m'attende sur PV. Donc, comme je ne reconnaissais pas que j'étais dans mes droits, définitivement, j'étais entendu sur PV.
Oui,
donc, c'est pourquoi je voudrais simplement poser la question à notre invité.
Oui.
Quand est-ce qu'on peut se reconnaître qu'on est dans ses droits et qu'on peut les revendiquer, effectivement? Et puis, autre question. Notre invité ne peut pas surtout donner un certain conseil aux certains OPG qui vont instituer le dossier de personnes arrêtées. Et par conséquent, on se retrouve arrêté. Et nous autres, si on est travaillé, on ne parvient pas à répondre à nos travaux et on reste détenu là-bas, peut-être 48 heures, et on ne voit pas le plaignant. Vous êtes là accusé, donc on ne comprend rien. Donc c'est pourquoi je voudrais simplement poser la question principale à notre invité, qui nous dise. Quand est-ce qu'on peut se reconnaître qu'on est dans nos droits et qu'on peut effectivement les revendiquer?
Merci Frédéric. Anselme, vous êtes à Kisangani, bonjour. Anselme de Kisangani, bonjour.
Bonjour, je suis avocat à Kisangani.
Vous êtes plutôt à Bukavu, nos excuses, on vous écoute Anselme.
Ok, en fait c'est une proposition que je d'abord avec notre invité Guilherme Malheur. Et je les salue d'abord en passant.
Merci.
Ça fait à peine trois fois que vous organisez cette émission concernant la réinstallation arbitraire. Est-ce que vraiment il ne fallait pas que vous associez même la mère d'un des dans l'émission ou que vous associez les préfets de la police?
Oui.
Je pense que ça s'est fait, mais ça continue et ça prolonge. Hein,
dans, oui.
Merci.
Anselme, on comprend votre préoccupation. Vous souhaitez qu'on puisse associer le ministre de l'Information ou de la Justice dans ce genre d'émissions. Merci pour cette proposition, Maître Guidin.
Oui, merci Jody. Merci aux auditeurs pour les questions intéressantes. Je commence par Frédéric Tulanda, je crois, du Kasaï. Eh bien, d'abord, quand il dit, effectivement, on constate sur terrain que certains OPJ semblent être au service du plaignant. Et cela est dû au fait qu'à la base, il y a une sorte de concussion au début, dans la mesure où quand quelqu'un vient déposer plainte, on lui demande tout de suite certaines sommes, soi-disant pour lancer la convocation, soi-disant pour acheter du papier,
pour, appels,
pour
ça,
faire des appels téléphoniques, etc.
Oui.
Cet argent n'est pas censé être demandé par l'OPJ, et quand il le fait, il commet l'infraction dite concussion. Et cette concussion fait que, c'est une forme de corruption si vous voulez, cette concussion fait que l'OPJ est tout de suite au service du plaignant, avec une sorte d'obligation des résultats. Donc le plaignant souvent cherche à ce que la personne accusée soit une sorte de victime, vient exercer une sorte de vengeance, démontrer que lui a des relations auprès des OPJ, etc.
Oui.
Et vous avez un OPJ qui se comporte comme s'il était aux ordres ou au service du plaignant. Cette impression est réelle, donc l'auditeur a eu raison de la souligner, mais elle est anormale. En principe, un officier de police judiciaire, quand il reçoit un dossier comme ça, doit l'instruire froidement. Et puis, c'est dommage même que la population, dans les propos de l'auditeur, soit amenée à penser que le plaignant est présumé gagner le procès. Vous voyez ça?
Oui.
Alors que la Constitution dit exactement le contraire, dans la mesure où l'article 17 de la Constitution, que nous avons soulevé tout à l'heure, qui est un article fondamental en ce qui concerne les libertés individuelles au Congo, précise que toute personne est présumée innocente quand elle est accusée d'une infraction, n'est-ce pas? Donc c'est celui qui accuse qui doit apporter la preuve.
Oui.
Vous qui êtes accusé, vous devez être considéré comme présumé innocent jusqu'à ce qu'un tribunal puisse établir de manière définitive que réellement c'est vous le coupable.
Et le plaignant doit décliner son identité. Parce que là, il dit, il est allé, on lui dit, on ne donne pas les motifs et personne, on ne lui signifie pas que c'est telle ou telle personne qui est venue se plaindre.
D'ailleurs, l'article 18 de la Constitution va plus loin en faisant obligation à celui qui arrête, c'est-à-dire l'officier de police judiciaire dans le cas d'espèce, d'informer celui qui est arrêté des motifs de son arrestation. Donc la plainte doit vous être lue, l'identité du plaignant doit vous être révélée et on doit vous demander quelle est votre réaction par rapport à cela. Mmh. Et votre rôle en tant que personne qui se défend, c'est juste de dire « je ne connais pas ça, je suis innocent ». Et c'est à celui qui vous a accusé d'apporter les preuves de ce qu'il a avancé.
Oui.
Et malheureusement, dans la pratique, on a l'impression qu'on demande à quelqu'un de prouver son innocence. En fait, c'est celui qui vous accuse qui doit prouver votre culpabilité. Vous n'avez qu'à, vous avez le bon rôle. Vous vous dites non, je ne connais pas ça.
Oui.
C'est celui qui accuse qui doit apporter les preuves et non l'inverse. Donc l'auditeur a eu raison de soulever cela.
Oui.
Et donc nos OPJ exagèrent. En ce moment-là, ce que l'on peut donner ici comme conseil à partir des radios Okapi aux justiciables, aux citoyens, c'est de savoir que l'OPJ n'est pas un tout puissant. L'OPJ aussi a des autorités au-dessus de lui. Et dans le cas d'espèce, c'est le procureur. Eh bien, si vous constatez qu'un OPJ, n'est-ce pas, vous malmène, a tendance à être partial, à supporter la position, à appuyer la position du plaignant, eh bien, si vous ne vous sentez pas en sécurité avec cet OPJ-là, allez directement au parquet le plus proche. Et là, vous allez voir qu'il y a le procureur de la République, qui est le chef de tout ce monde-là, OPJ et magistrat du parquet.
Oui.
Le procureur de la République va faire ce qu'on appelle une réquisition d'information, c'est-à-dire il va demander que le dossier lui soit communiqué, toutes affaires cessantes. Et le dossier sera ravi à l'OPJ et avec obligation de le transférer immédiatement donc au parquet. Il a, je crois, 15 jours pour cela. Donc vous vous rendez compte que l'OPJ n'est pas un tout puissant. Et s'il commence à faire...
À malmener la famille,
oui,
il faut
bien,
payer des amendes transactionnelles, tout ça.
Répéler cette chose-là au procureur de la République.
Oui.
Et vous verrez que le dossier va être enlevé à cet OPJ et sera instruit par un magistrat du parquet, qui sont généralement des personnes bien formées, etc., qui font le travail correctement, mieux que les OPJ en tout cas.
Pichou Mouanga, vous êtes à Kikuit, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute. Hein. On vous écoute, Pichou.
Oui, merci. Une préoccupation, une personne qui est présumée avoir commis une infraction par la loi et arrêtée par la police. Les enquêtes montrent que la personne est vraiment innocente. Est-ce que ça, il s'agit aussi de détention arbitraire et quelle est alors la sanction vis-à-vis des polices qui l'arrêtent?
Ok, maître Guilain.
Non, attention, le pouvoir d'arrêter est un pouvoir qui est quand même reconnu aux officiers de police judiciaire. S'il y a des indices, sérieux de culpabilité, il peut y avoir des indices, et il peut y avoir une confusion à votre sujet qui est normale. Hein. On peut vous prendre pour l'auteur de l'infraction parce qu'il y a une forte ressemblance avec lui, parce que vous vous trouviez au lieu de la commission de l'infraction. Il peut y avoir des coïncidences qui font que des indices puissent peser sur vous.
Oui.
Eh bien, si les enquêtes finissent par vous innocenter, le fait qu'on vous ait arrêté, normalement dans les délais 48 heures de garde à vue, etc., ne constitue pas une arrestation arbitraire, constitue un exercice d'une attribution normale, n'est-ce pas, de nos PJ. Il peut vous arrêter, mais s'il instruit correctement, aboutir à la conclusion que vous n'avez rien à voir avec cette affaire et on vous relâche. En ce moment-là, il n'y a pas eu arrestation arbitraire parce que c'était un devoir qui a été accompli dans le cadre d'une enquête normale.
Voilà. Vincent Depaul Mukendi est à Kananga. Bonjour. Vincent Depaul, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à l'invité.
Quelle est votre préoccupation?
Ma préoccupation est la suivante. Je dis à l'invité, moi-même, j'ai été arrêté. C'était un certain dimanche. Venant de l'église, j'ai été arrêté. L'infraction était consommée, je reconnaissais l'infraction. Mais les militaires et les policiers sont venus m'arrêter en cours de route, sans document ni quoi. J'ai été amené au cachot. J'ai fait 3 jours au cachot, sans que je sois même entendu sur PV.
Oui.
Les gens des droits de l'homme qui venaient là pour demander aux cachonnés là d'avoir leur avis, comment leur arrestation a eu lieu. J'ai été même interdit d'entrer en contact avec les gens des droits de l'homme. Alors, je demande à l'invité. Où je peux aller me plaindre, puisque cela a déjà pris un mois. Où aller me plaindre et quelles sont les procédures que je peux mettre en application pour avoir la résolution à cette arrestation.
Et comment est-ce que vous avez été libéré?
J'ai été libéré lorsque le plaignant est venu. Alors, il y a eu confrontation, alors j'ai été libéré.
Et vous avez dû payer des amendes transactionnelles?
Oh oui, j'ai payé les amendes.
Ok, merci Vincent. Roxy Muyumba, vous êtes à Kinshasa, hein? Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Roxy.
Oui, ma question est la suivante. Je pose à l'invité, quelle est la procédure à suivre lorsqu'on est victime d'une arrestation arbitraire?
Merci, Roxy. Maître.
Merci.
Oui, les deux questions se ressemblent. Je remercie les auditeurs. Eh bien, ce qu'il faut savoir ici, c'est que lorsqu'on vous arrête déjà pour une durée de 3 jours, on est déjà dans la violation de la loi. Alors, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire maintenant lorsqu'on a été victime d'une arrestation arbitraire.
Oui.
Eh bien, c'est très simple. Si l'arrestation provient d'un OPJ, parce que c'est souvent le cas ici, hein, dans un souciat, des policiers qui vous arrêtent sans document,
oui,
sans mandat, sans rien du tout, eh bien, puisque vous avez pris leur identité, en tout cas leur localisation, sachez que les OPJ ont pour autorité le procureur de la République. Donc, il faut écrire au procureur de la République qui a plusieurs sanctions qu'il peut prononcer ou prendre contre ce genre d'OPJ. Première sanction, il peut suspendre leur habilitation, c'est-à-dire interdire qu'ils puissent exercer comme OPJ pendant un certain délai, 3 mois, 6 mois, etc. Ça, c'est pour un temps. Il peut même les radier de la liste des OPJ en publiant, n'est-ce pas, leur nom, en disant que telle personne, selon que les infractions commises par cette OPJ sont très graves, n'exercera plus comme OPJ. Or, comme vous le savez, nos OPJ ici, lorsqu'ils sont soit suspendus, soit définitivement radiés de cette qualité,
oui,
eh bien, sont malheureux parce que ils considèrent un peu ça comme leur champ. Et donc,
Bilanga,
c'était pour ne pas dire ça, oui, oui. Et donc, ce sont des sanctions très graves.
Oui.
Ça, c'est sur le plan, je peux dire, disciplinaire. Mais vous avez aussi le droit d'aller aussi vers le juge pénal, donc au tribunal concerné. Ici, c'est le tribunal de paix.
Oui.
Parce que l'arrestation arbitraire est punissable de 1 à 5 ans, eh bien, vous allez là-bas, vous faites votre citation pour détention arbitraire ou arrestation arbitraire contre tel monsieur, OPJ de son État, et vous allez voir, il va être appréhendé. Enfin, ce qui est plus facile à faire, les OPJ de la police nationale, surtout, ce sont des policiers, donc des justiciables des juridictions militaires. Vous allez à l'auditorat militaire le plus proche. D'ailleurs, les OPJ n'aiment pas entendre ce terme-là,
auditorat.
Donc, vous allez à l'auditorat et vous allez voir les magistrats militaire, eux ne blaguent pas, et le règlement militaire est très strict, cet OPJ eh bien, sera interpellé et sanctionné conformément à la loi.
Donc vous allez vous plaindre là-bas, à l'auditorat.
À l'auditorat militaire le plus proche. Donc il faut que les justiciables le sachent pour que certains OPJ cessent de se comporter en dictateur et en potentat.
Oui. Merci à tous les auditeurs qui nous ont écrit depuis la page Facebook de Capi Service, et ils ont commencé à réagir depuis le vendredi dernier, merci. De Goma, nous avons la question d'un auditeur, il dit ceci, c'est son avis, il dit, au cas où on se rend compte que toutes les portes où l'on pouvait aller se plaindre pour détention arbitraire sont déjà corrompues ou minimisent les faits, que faire? Parce que souvent, quand on part se plaindre, ces chefs disent Kendeboyo Kana, Salagnos Oyobako, Akosengayo, à régler sa
maladie. C'est vrai, lorsqu'il reste dans le cadre de la police, hein, il va auprès de la hiérarchie administrative. Mais s'il va à l'auditorat, il n'aura jamais ce genre de propos. L'auditorat va sévir. Hein. L'auditorat ne blague pas avec les OPJ de la police nationale qui font de l'arrestation arbitraire ou d'autres infractions. Allez à l'auditorat, chers auditeurs, et vous allez voir que vous aurez des résultats.
Voilà, c'est la question aussi des dons Roi Migabo. Il dit, où déposer une plainte pour la détention arbitraire et comment procéder? Alors, vous avez déjà répondu
à J'ai répondu à cette question, je vous dis.
Voilà. Jonathan Aléantara Ribeiro, il dit, comment ferons-nous pour porter plainte en cas de détention arbitraire et envers qui porterons-nous plainte? Voilà, ce sont presque les mêmes questions.
Tout à fait.
Lucien Koulou, quelle procédure à suivre? À quelle instance juridique pouvons-nous déposer notre plainte en cas de détention? Non fondé ou arbitraire, voilà,
tout
ce sont presque les mêmes questions. Moïse Loumeri, au Congo, la détention arbitraire n'existait pas pour la plupart de nos OPJ. Ils la confondent avec les raisons d'enquête. Je demanderai à l'invité de nous donner, de nous éclaircir.
On a expliqué les conditions tout à l'heure,
Oui, car beaucoup de personnes sont victimes. Et Moïse ajoute, au Congo, voilà, c'est la même question qui
revient. Tout à fait, tout à fait.
Et des Kalemi, Ernest Lukumwena, il dit, que faire pour être rétabli dans ses droits en cas de détention arbitraire? Et Israël Nzenzoule de Boutembo dit ceci, faudra-t-il... Non, ça c'est la question qui concerne la deuxième...
Mais en tout cas, je vous dis, le constat à faire, c'est que c'est réellement un problème sérieux dans notre société.
Oui.
Et donc l'État devrait être interpellé par ce genre d'émissions et de réactions des auditeurs. Pour,
donc on comprend que les OPJ ne sont pas les tout-puissants.
Ne font pas correctement leur travail. Et donc le parquet a intérêt à multiplier les inspections des officines des OPJ pour voir si les choses se passent correctement à ce niveau-là.
Mais est-ce qu'ils connaissent la loi ou pas? Ils la connaissent, mais... ils font autre chose.
Il y en a qui la connaissent, il y en a qui sont arrivés à ces fonctions-là de manière assez biaisée, sans suivre un quelconque cursus, une quelconque formation. Il y en a même qui exercent sans avoir prêté serment ni avoir été habilité. Mmh. Et là, les justiciables doivent savoir qu'ils ont le droit de demander à un OPJ de décliner d'abord sa qualité et de montrer éventuellement sa carte d'OPJ, parce que s'il n'est pas OPJ, tous les procès-verbaux qu'il établit sont nuls selon la loi. Mmh. Donc, et la loi dit que vous avez le droit, vous, justiciable, de demander à un OPJ d'éprouver sa qualité.
Souvent, les gens sont intimidés.
Les vrais OPJ sortent leur carte et vous montrent que je suis réellement OPJ, etc. Les faux OPJ se mettent tout de suite à vous dire que vous n'avez pas à poser des questions ici, etc. Oui. Alors que ce sont vos droits tels que consacrés par la loi, les codes de procédure pénale.
Richard Mukalenge, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Kachama et l'invité.
On vous écoute. Merci. Richard.
Oui, ma question est celle-ci. Il a deux volets plutôt.
Oui.
Le premier volet, combien coûte un dossier lorsqu'on l'ouvre à la police pour le parquet, ou lorsqu'on l'ouvre directement au parquet pour un malfaiteur ou contre un malfaiteur. Deuxièmement, quand on nous demande Mbongo Yagotambusa dossier, $50 par les inspecteurs judiciaires,
oui,
sans reçu, ça signifie quoi? Merci.
Mais ça, c'est tout simplement des antivaleurs qu'on ajoute à la liste de celles que nous avons citées tout à l'heure dans cette émission aujourd'hui. D'abord, un dossier au niveau du parquet, vous devez savoir, pour un plaignant, lorsque vous venez porter plainte contre quelqu'un qui a commis une infraction, qui a troublé l'ordre public ou qui a violé les bonnes mœurs, vous rendez service à la société. Et donc, on devrait même encourager les plaignants et non les tracasser. La loi prévoit que la procédure préjuridictionnelle, donc au niveau du parquet, est gratuite et de la police. Lorsque vous portez votre plainte, vous déposez votre plainte, vous êtes censé ne rien donner à ce niveau-là. C'est gratuit. Et lorsque l'OPJ ou le magistrat du parquet vous demande de l'argent, soi-disant pour diligenter les enquêtes, il commet ce qu'on appelle de la concussion. Mmh. C'est-à-dire, il demande de l'argent alors que la loi ne permet pas de demander de l'argent pour ce travail. Mais ça, c'est le principe, hein, ça c'est l'idéal, ça c'est la loi. Mais le problème, c'est que en contrepartie, malheureusement, l'État ne donne pas des frais de fonctionnement à ses services. Mmh. Le parquet, la police nationale, etc., sont censés avoir officiellement des frais de fonctionnement qui permettraient, comme sous d'autres cieux, aux OPJ de se transporter sur le terrain, de faire les enquêtes. Oui. Malheureusement, il arrive que, et surtout dans la ville de Kinshasa, où il y a des très grandes distances, pour aller déposer une convocation, on ne sait pas envoyer un agent de police judiciaire à pied, d'ici, par exemple, je ne sais pas moi, à Kitambo ou même plus loin. Et à ce moment-là, bien, souvent, il recourt à la bonne volonté du plaignant pour dire, écoutez, nous voulons bien lancer la convocation contre votre suspect,
mais on n'a pas de moyens,
mais on ne sait pas comment y arriver. Ça fausse un peu les jeux, parce que dès que vous sortez, si vous donnez strictement ce qu'il faut payer pour les taxibus, on peut encore comprendre. Mais ça devient un paquet, $50, déjà vous inféodez, vous influencez déjà et l'enquêteur, n'est-ce pas, qui va avoir forcément un parti pris pour vous, et ça fausse tous les jeux.
Ça fausse les jeux, oui.
Et donc, normalement...
Et Richard veut savoir combien coûte un dossier.
C'est gratuit.
C'est gratuit.
C'est gratuit, pour nous conformer à la loi, c'est gratuit, mais malheureusement...
il y a d'autres réalités.
Il y a d'autres réalités.
Alors, on retient que les justiciables, en cas de détention arbitraire, les justiciables peuvent aller voir le procureur directement pour se plaindre ou aller à l'auditorat militaire.
Exactement, je vous dis, c'est l'information clé de cette information, de cette émission.
De cette émission. Maître Guilhem Allaire, bonjour. Merci et bon début de semaine.
Merci à vous, Jody, et merci à tous les auditeurs pour leur intérêt au Capi Service.